Panorama économique.
Bonne fin de semaine, messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Cette émission revient essentiellement sur le rapport de Sarwa RDC, rapport publié lundi à Kinshasa sur la contribution de la société civile dans la mise en œuvre du programme ITE en RDC. Cette contribution se mesure par la dissémination des rapports ITE, contribution à l'élaboration des rapports et à l'évaluation périodique de la mise en œuvre du processus. Sortir de l'impasse fiscale, comment sauver la réforme du code minier en République démocratique du Congo, c'est une autre étude publiée le même lundi dans la soirée par une autre ONG, Natural Resource Governance Institute. Dans cette étude, l'ONG demande au gouvernement, les entreprises minières et la société civile engagées dans la réforme de bien dialoguer en vue de trouver le juste milieu de la loi en ce qui concerne le régime fiscal proposé dans le projet de révision. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo interpellé à l'Assemblée nationale, la représentation nationale veut avoir le cœur net sur le refus de la Banque centrale du Congo à agréer le liquidateur désigné par les actionnaires de la BIAC en difficulté. Voilà pour les grandes actualités de la semaine. Je vous en souhaite bonne écoute. Je suis Daniel Tambinzoni devant ce micro à la prise de son de Denis Yangassa. À toutes et à tous, bienvenue.
Panorama économique, le dossier.
Commençons notre dossier de cette semaine par lundi. La société civile a joué un rôle important dans la mise en œuvre de l'ITE RDC. Cette contribution s'est mesurée par la dissémination des rapports ITE, la contribution à l'élaboration des rapports et à l'évaluation périodique de la mise en œuvre du processus. Ceci ressort d'un rapport Sarwa publié lundi à Kinshasa et je vous propose ici d'écouter les coordonnateurs de l'ITE RDC, le professeur Mac Doumba, qui reconnaît cet appui de la société civile dans cet entretien qu'il a bien voulu nous accorder après la présentation du rapport.
Les activités de la société civile dans la mise en œuvre sont capitales. Et je dois imaginer ça en disant que les entreprises, vous savez que l'ITE est tripartite. Il y a le gouvernement, les entreprises et la société civile. Les deux premières parties sont des parties déclarantes. Et le gouvernement dirige la mise en œuvre, mais la mise en œuvre n'avancerait pas s'il n'y avait pas la société civile. Et la société civile, c'est le moteur du véhicule. Quand vous pouvez avoir du carburant, vous pouvez avoir la carrosserie, mais quand il n'y a pas de moteur, ça ne peut pas avancer. Et donc, nous disons que ça nous apporte beaucoup plus. Et si aujourd'hui, le processus ITE en République démocratique du Congo est mieux vu à l'extérieur, mieux coté, et nous avons de la considération parce que la société civile de la République démocratique du Congo mène des activités qui permettent à ce que le processus reste debout. La société civile est vigilante, la société civile conseille, la société civile attire l'attention des autres parties prenantes, la société civile corrige, la société civile est capable d'évaluer le processus. C'est ça, donc, en conclusion, l'apport est de première importance et très nécessaire. Mm-hmm. C'est ce que nous retenons.
Une illustration de quelques activités qui vous ont vraiment servi.
Oui, par exemple, vous savez que c'était très difficile à l'époque, il y a 4 ans, de connaître exactement les maillons du contrat sino-congolais de Sicomine. On ne pouvait pas savoir exactement qu'est-ce qui était venu, parce que c'est un contrat de type troc. Il y a des infrastructures qui sont réalisées avec le prêt que nous avons reçu. Et lorsque la Sicomine va commencer à produire, déjà elle a commencé, nous allons vendre et restituer l'argent qui a servi aux infrastructures et aussi aux projets mines. Et donc, pour que nous soyons au courant de cela, il a fallu que la société civile pèse de tout son poids, que la société civile fasse des arrêts de participation au processus ITE, parce que nous étions prêts d'être suspendus. Et à cause de cela, le chef de l'État a autorisé, avec le Premier ministre, qu'on nous mette au courant exactement du contrat sinon. Ça, c'est capital pour nous. C'est capital aussi la lecture des rapports ITE par la société civile et la critique qu'ils effectuent sur la qualité et sur le contenu des rapports. Et ça, ça nous apporte que nos rapports sont les meilleurs aujourd'hui dans le monde.
Et si je regarde rapidement dans les recommandations de chercheurs, quelque part, on vous demande de vulgariser encore beaucoup. Il faut beaucoup vulgariser l'ITE sur l'ensemble du territoire national.
Oui, c'est très important.
Encore fait.
Nous le faisons tous les jours. La dissémination des rapports a un coût. Et vous savez qu'aujourd'hui, il faut le dire, notre pays a des difficultés d'ordre financier. Il ne faut pas que nous puissions nous leurrer, que nous sommes capables d'aller sur les 144 territoires du pays pour vulgariser l'ITE. Les moyens sont vraiment, se sont amoindris, mais au fur et à mesure, c'est un processus. Nous n'avons pas un terme comme à l'école pour dire à la fin de l'année, c'est fini, vous devez passer des classes. Nous continuons le processus d'une manière ou d'une autre à vulgariser et nous pensons que nous y parviendrons dans un temps, même si ce n'est pas en 2020, mais au-delà, mais nous arriverons à vulgariser l'ITE à travers tout le territoire national.
Professeur Makdoumba, merci.
Merci beaucoup, mon ami.
Une autre ONG, Natural Resource Governance Institute, a publié le même lundi à Kinshasa une étude comparée intitulée « Sortir de l'impasse fiscale, comment sauver la réforme du code minier en République démocratique du Congo ». Dans cette étude, l'ONG demande au gouvernement, les entreprises minières et la société civile engagées dans la réforme de bien dialoguer en vue de trouver le juste milieu en ce qui concerne le régime fiscal proposé dans le projet de révision. Le régime fiscal dans le projet de révision en question est de 67%, alors que dans la loi de 2002, l'État prélevait 58% de toutes les impositions. Nous en parlons avec notre premier invité de la semaine, Jean-Pierre Okinda. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le représentant, le coordonnateur pays de l'ONG Natural Resource Governance Institute. Votre organisation vient de publier une étude intitulée Sortir de l'impasse fiscale, comment sauver la réforme du code minier en République démocratique du Congo. Parlez-nous un peu de cette étude, c'est parti de quel constat?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'étude, comme vous le savez, part du constat qu'aujourd'hui, la réforme du code minier qui a été initiée par le gouvernement depuis 2012 est dans les passes. Dans les passes pourquoi? Parce que le projet de loi a évolué à un moment donné, précisément, je crois... dans le dernier trimestre de l'année 2014, le gouvernement a bouclé les discussions sur cette réforme-là, sur les codes miniers dont je suis en train de parler, les codes miniers de 2002. Et le projet a été soumis en mars 2015 au Parlement pour examen. Et plus tard, le gouvernement a sursi l'examen de cette loi. Et en ce jour, je dirais d'ailleurs que depuis lors, le gouvernement a communiqué de manière tout à fait contradictoire par rapport à ses intentions sur la continuité ou non de la réforme. Tantôt, le gouvernement a dit va continuer la réforme, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le projet de loi qui a été déposé au Parlement n'a jamais été examiné. Donc, il n'y a pas eu de débat autour de ça et donc on est dans les passes.
Je me rappelle même qu'au début, à la veille de la rentrée parlementaire du mois de la session du mois de mars, les organisations de la société civile se sont réunies et ont adressé un mémo au gouvernement pour que la question soit inscrite à l'ordre du jour, mais en tout cas dès lors, depuis ce jour, aucune suite par rapport à cette requête.
Effectivement, il y a eu un effort fait de la part de la société civile pour que le projet de loi soit inscrit à l'ordre. La commission de l'environnement ressources naturelles du Parlement a inscrit même ce projet de loi dans leur agenda, mais comme vous l'avez dit, cela n'a jamais été examiné. Et donc, on est justement dans l'impasse. Et au centre de cette impasse, il est important de souligner, souvenez-vous qu'en début du premier trimestre 2015, lorsque le gouvernement dépose le projet de loi au Parlement, les secteurs privés n'a pas tardé à réagir contre la poursuite de l'examen de cette loi. Et au centre de leurs préoccupations, c'est le régime fiscal. Ils ont estimé que le régime fiscal qui était dans le projet de loi, ou qui est, parce que ça demeure encore, était assez onéreux et serait catastrophique s'il est appliqué, parce que ça rend le projet de plus en plus moins rentable. Et il rend donc la RDC comme une destination non et donc préférée par les investisseurs. Donc ce qui fait un problème.
Le projet prévoit 68%. pour la fiscalité.
Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on a constaté en tant qu'organisation, ce que nous avons cherché, vous avez deux tendances. Vous avez les sociétés privées qui disaient que le projet de loi, il a un régime fiscal qui est assez lourd, si vous voulez, et qu'il faut à tout prix, en tout cas, du moins maintenir le régime fiscal de 2002. Et les gouvernements disaient que le régime fiscal de 2002 n'était pas bon parce que ça ne nous permettait pas de capter davantage de recettes. Et la société civile aussi allait dans le sens du gouvernement de dire il faut réformer, il faut revoir donc le régime fiscal. Malheureusement, je dirais qu'il n'y avait pas d'études d'analyse assez approfondie et surtout comparée avec d'autres pays. Et ce que nous avions essayé de faire, c'était justement d'essayer de cette opportunité et mener une étude comparée avec d'autres pays. Et on l'a fait. Vous le relevez, vous voyez les graphiques dont vous avez fait allusion. Et en train de montrer que nous avons modélisé, on appelle ça la modélisation financière, donc du régime fiscal. On a fait ça et on a vu dans un projet de cuivre, par exemple. Là, nous sommes en train de voir que le projet de loi qui est soumis donnerait à la RDC 66%. Il s'agit ici des 66% de taux moyen de prélèvement sur le flux de trésorerie que générerait un projet. Et donc là, la RDC prendrait 66%, alors que le code minier de 2002 montre que les pays pouvaient prendre 58%. Donc ça, ce sont des problèmes, comme ce sont des constatations et qui sont tout à fait techniques, donc qui prouvent. Et nous passons aussi, de même que les sociétés privées, qu'il faudrait vraiment des discussions assez approfondies sur la question du régime fiscal et qui est dans les projets de loi.
Dans la loi de 2002, la RDC prenait pour, ça c'est le cuivre, je vois. Ouais. Oui, la RDC prenait déjà 58%, et dans la proposition de révision, c'est 68%. Tandis que nous voyons dans cette étude comparée avec d'autres pays, il y a le Pérou qui prend par exemple 45% de fiscalité de toutes les recettes qui deviennent, que produit un projet. Mais votre étude dit que le Pérou gagne beaucoup d'argent par rapport à la RDC qui est appliquée 58%.
Oui, justement, là on est ici, tous les analystes et les experts savent qu'on est ici en matière théorique. Lorsqu'on fait la modélisation de régime fiscal, on est en matière tout à fait théorique. On essaie de voir tout ce qui est prévu théoriquement. Ça c'est très important et nous sommes en train de dire que les statistiques que vous voyez dans ces graphes ici, c'est théoriquement, si le régime fiscal du code de 2002 était appliqué correctement, et donc ça donnerait ça. Ce qui se passe, quoi? Le Pérou a 45%, comme vous le dites, mais le Pérou fait plus d'argent que la RDC. Cela explique qu'il y a d'autres paramètres au-delà de la fiscalité. Il y a
qui peuvent être?
Absolument. Les paramètres, par exemple, quoi? L'efficacité de l'administration publique, de collecter les taxes, donc, qui lui appartient. Donc, vous pouvez avoir un régime fiscal qui est comme celui qu'on a à RDC, 58%, qui est plus favorable pour l'État que l'État de quoi? Du Pérou. Mais l'État du Pérou fait beaucoup d'argent par rapport à l'État de la RDC. Donc, les pratiques de corruption, les évasions fiscales, fraudes et consorts, tout ça, peuvent faire en sorte qu'on ait un régime fiscal, mais on n'arrive pas réellement à collecter donc ces dons et escoter ces dons et entendus. Donc vous avez quelque chose dans la théorie, mais dans la pratique, vous avez du mal à mettre en œuvre. Et ça, ce sont des problèmes parfois structurels qui vont au-delà du régime fiscal. Et donc, nous ne disons pas, même si vous voyez 58% ici, nous ne disons pas que la RDC prend 58%. La RDC prend moins. Vous n'avez à voir seulement que le budget de l'État, vous allez voir que les recettes du secteur sont tout à fait. Vous les comparez avec le Pérou, qui a épargné des milliards d'argent. Donc, il y a tout à fait, donc, ces paradoxes-là, ces autres facteurs-là qui sont très importants, qui peuvent faire que c'est vrai que le régime fiscal, c'est un dispositif clé. Il est au centre, mais il ne détermine pas tout. Donc, c'est pas important. C'est dans ce sens-là que nous disons oui. Nous disons pas que le régime fiscal 2002, il est parfait, parce qu'il manque de progressivité. Je n'ai pas expliqué. Le problème avec les Pérou, c'est que le régime fiscal des Pérou contient des dispositions qui sont progressives. C'est-à-dire qui permet à l'État d'être flexible. Je donne un exemple. La redevance minière au Pérou varie, si j'ai une bonne mémoire, je crois, de 0,5, si je n'oublie pas, jusqu'à 14%, par exemple, ça. Chez nous, nous avons 2%. Donc, qui est embelli des cours ou pas, nous prenons la redevance 2%. Mais chez eux, ça varie. Donc, cette flexibilité est importante lorsqu'on est dans l'industrie minière, industrie dont les cours ne dépendent pas, les cours de métaux ne dépendent pas des pays producteurs. Donc, vous ne maîtrisez pas le marché. Vous faites face aux aléas du marché. Donc, il faut essayer d'avoir des instruments fiscaux qui permettent à ce qu'on puisse avoir la possibilité chaque fois de capter une part importante lorsque le cours s'améliore. Ça manque dans notre régime fiscal, quoi, de 2002.
Et vous avez assisté à ces débats entre le secteur privé, l'État congolais, la société civile. Vous avez mené cette étude et dans cette étude, quels sont les conseils que vous avez prodigués à chacune des parties?
Alors, nous avons une recommandation principale que nous faisons en toutes les parties, mais avec plus de responsabilités au gouvernement. Là, on a le Premier ministre, donc Sami Badibanga, qui vient d'être nommé et qui a les objectifs notamment d'organiser les élections. D'abord, le président a dit que c'est les élections. Deuxièmement, le président parlait d'améliorer les sociales. Et donc, nous pensons qu'il faut renouer les dialogues. Il faut que les gouvernements puissent renouer les dialogues avec les parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile, pour trouver un consensus. Il n'y avait pas d'études assez comparées comme ce qu'on vient de produire maintenant. Donc il y a une opportunité maintenant que les parties prenantes puissent se regarder et prennent réellement des positions qui soient bien informées. Techniquement d'abord, parce que la réforme, je sais qu'il y a des dimensions politiques, décisions politiques, mais techniquement il faut qu'on comprenne très bien la portée du changement apporté au niveau du régime fiscal. Et donc le changement apporté ou des améliorations à faire doit reposer sur des arguments qui sont techniques. Et là, nous sommes en train de voir avec vous qu'il n'y a pas le régime fiscal qui est le facteur déterminant. C'est le facteur clé. Mais il y a d'autres aspects. Il y a l'environnement des affaires et qu'on sort tout ça. Prenez l'exemple. Si on applique le régime fiscal de la RDC dans les projets de cuivre, nous allons prélever 68% qui est tout à fait similaire avec ce que l'Australie occidentale prendrait. Je dis tout simplement ça. Prendrait. Et donc, voyez-vous que ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'un investisseur peut préférer aller en Australie qui est ici chez nous? On sait où on a beaucoup de problèmes, tout ça et qu'on sort tout ça. Voyez-vous, aucun pays africain que nous avons comparé ici n'arrive jusqu'à ce point-là, à 68%. Je pense quand même qu'il faut être, il faut être équilibré. Et il faut vraiment techniquement s'informer. Mais nous ne disons pas qu'il faut laisser les coups de midi. Des 1000 dés, parce que nous avons trouvé qu'il a ses failles. J'ai parlé de la question, on n'a pas parlé de ça, de la stabilisation du régime fiscal. Il faut absolument maintenant qu'on puisse mener la réforme, parce qu'avec la stabilisation de 10 ans figée en date de la modification de la loi, donc toutes les réformes du code minier en ce qui concerne le régime douanier de change et le régime fiscal, les compagnies ont 10 ans, sauf si elles acceptent de négocier avec nous, mais ont 10 ans. Donc si nous modifions le code minier aujourd'hui ou en 2017 par exemple, les dispositions fiscales n'entreront en vigueur qu'en 2027. Donc on n'a pas à attendre que le cours s'améliore, parce que personne ne connaît quand les cours vont s'améliorer. Il faut plutôt se préparer à, surtout avec notre approche là-bas qui est très mal. Je vous informe, messieurs les journalistes, que nous n'avons aucun des pays que nous avons étudié, même d'autres au-delà, n'a une formulation d'une clause de stabilisation figée sur la modification de la loi. Non, ça ne se fait pas. Parce que là, le gouvernement est pratiquement cloué. Le gouvernement n'a pas les mains libres de devoir changer, voyez-vous. Donc, c'est maintenant le temps, le message fort. Il faut renouer les dialogues. Il ne faut pas imposer, il faut trouver un consensus avec la partie prenante, mais il faut le faire maintenant. Et c'est ça le message aussi de la société civile congolaise. Il faut le faire maintenant à cause notamment de notre clause de stabilisation. Ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre les cours. Quand les cours va s'améliorer, en réforme, on doit attendre encore 10 ans. Et c'est ce qu'on a connu, souvenez-vous. On a eu ici ce qu'on appelle les booms. Mais on a eu les booms, on n'a rien pris. C'est à ce moment-là que le gouvernement vient avec le projet de loi ici. Rapidement, on fait tout ça. Et après, il y a chute. Et puis, on arrête, voyez-vous. On est dans un marché, dans un domaine qui a des caractéristiques qui sont connues. Et c'est un secteur, il faut beaucoup de prudence, il faut beaucoup d'anticipation. Il faut des bonnes décisions politiques et surtout, il faut les prendre dans le temps. Ça, c'est très important.
Monsieur Jean-Pierre Okenda, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Nous continuons la série avec le professeur Madimba Kadimanzouji. Il est porte-parole des actionnaires de la BIAC. Avec lui, nous avons fait le point, c'était mercredi, de la situation qui prévaut à la BIAC. Le professeur Kadimanzouji nous fait le point de la situation qui prévaut à la BIAC. C'était mercredi, je le disais.
À l'heure actuelle où je vous parle, la BIAC est dissoute depuis l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 novembre 2016. Et nous sommes en attente de la nomination d'un liquidateur par la Banque Centrale du Congo.
Les actionnaires veulent liquider la BIAC pour préserver les dépôts de clients, mais la Banque Centrale du Congo pense qu'il ne faut pas liquider. Il y a un repreneur qui, dans le but également de préserver les dépôts des épargnants. Mais qui dit mieux dans cette histoire?
Premièrement, je voudrais dire que sur le plan légal, la dissolution volontaire est admise et même autorisée par la loi bancaire et par l'acte uniforme des sociétés commerciales, notamment la loi bancaire dans les articles 56, 59 et 61 alinéa 1. si les actionnaires ont pris la responsabilité de dissoudre volontairement la BIAC, c'est parce que depuis que la Banque Centrale du Congo dit qu'elle a des repreneurs, on n'en a vu aucun venir. Et il faut savoir que le plan de redressement avait une durée de 180 jours qui se termine au 30 novembre. Donc pour éviter de tomber dans une liquidation...
Et nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, justement.
Oui, tout à fait. Pour éviter de tomber dans une liquidation forcée et de voir les biens de la BIAC vendus à des prix non concurrentiels, les actionnaires de la BIAC ont décidé de dissoudre volontairement la banque. Il faut savoir ici que c'est d'abord l'intérêt des épargnants qui est visé. L'objectif est de préserver l'intérêt des épargnants afin qu'ils puissent recouvrer leurs dépôts au plus vite.
La Banque centrale s'y oppose et brandit également cet intérêt des épargnants.
Mais la Banque centrale a participé à une assemblée générale extraordinaire le 11 octobre, où il a été clairement dit qu'il fallait 120 millions de dollars pour recapitaliser la banque, premièrement. Deuxièmement, on a demandé à la Banque centrale du Congo de lever deux interdictions. La première, celle de sortie du territoire de l'actionnaire majoritaire représenté par M. Blattner. La troisième, c'est celle d'enlever de la liste OFAC l'actionnaire majoritaire représenté par M. Blattner. Ces conditions n'ont pas été rencontrées. Dès lors, M. Blattner ne peut pas sortir du pays pour chercher un repreneur. Il est clair que comme ça, on ne peut pas trouver de solution. Donc si la Banque centrale du Congo avait apporté en déant les délais un repreneur avec 120 millions de dollars, nous n'aurions pas cette discussion à présent. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que la Banque centrale dit qu'elle a un repreneur. Elle le dit depuis 5 mois. Entre-temps, il y a une réalité, c'est que la dette sociale de la banque a été multipliée par 3. Et... Au départ, quand le comité d'administration provisoire a pris la tête, c'est-à-dire le 30 mai 2016, a pris la tête de la BIAC, on estimait à plus ou moins 40 millions de dollars les fonds nécessaires pour renflouer l'entreprise. Maintenant, on est passé à 120 millions de dollars. Expliquez-moi comment en 5 mois, on a pu passer à 120 millions de dollars et pourquoi on n'a toujours pas de repreneur.
Et donc, aujourd'hui, la BIAC est une banque dissoute.
La BIAC est une banque dissoute depuis le 4 novembre.
Et les épargnants et même le personnel qu'il faut indemniser, c'est quoi leur situation aujourd'hui?
La situation est que plus vite on liquidera, plus vite tout le monde rentrera dans ses droits. C'est ça la situation à l'heure actuelle.
Et c'est pour avoir le cœur net sur cette situation qui prévaut à la BIAC que le député Henri Thomas Lokondo avait initié le même mercredi une interpellation du gouverneur de la Banque centrale du Congo qui devra, dans les jours qui viennent, se présenter devant les députés pour éclairer un peu cette situation. Et l'initiateur de l'interpellation explique ici au micro de Michel Kifindangoy.
Nous suivons à travers la presse que les actionnaires de la BIAC veulent la liquider avec toutes les conséquences que vous pouvez bien imaginer sur le plan social. Et d'un autre côté, il y a la Banque centrale du Congo qui gère maintenant la BIAC, ne veut rien entendre parler de la dissolution parce qu'elle estime qu'elle a obtenu un repreneur, une banque chinoise peut redynamiser la BIAC. Et les gens qui ont leur argent, les déposants sont inquiets parce qu'ils ne parviennent pas jusqu'à présent à voir la totalité de ceux qui peuvent le tirer. Vous le savez, la BIAC, c'est une banque qui a un réseau important à travers le pays. C'est la banque qui paye les fonctionnaires à travers le pays, les militaires, les policiers. Alors, si on ne parvient pas à trouver une solution définitive, nous risquons d'avoir un problème social grave. C'est pourquoi j'ai demandé que le gouverneur de la Banque centrale puisse venir et qu'il nous fasse le point de la situation. Et c'est ce qui a été accepté par les collègues. Et je crois que le bureau va programmer son audition d'ici 2 jours au maximum.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Les autres informations de la semaine en bref, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, était mercredi devant les députés provinciaux à Bukavu pour présenter aux élus le rapport de l'exécution du budget du premier semestre 2016. Il est ressorti de ce rapport qu'au 30 juin 2016, les réalisations sont de l'ordre de 32,34%, soit un montant chiffré de 35 milliards 265 millions 678 600 106 francs congolais. Ces réalisations n'ont pas satisfait les représentants du peuple qui, selon eux, le gouvernement Chisambo n'a jamais réussi à réaliser 50% de budget depuis qu'il dirige la province. L'Union des déclarants en donne de la ville de Boma. Nous sommes à 120 km à l'ouest de Matadi, a lancé ce même mercredi un SOS en direction du gouvernement central afin de revoir sa mesure interdisant l'importation des véhicules vieux de 10 ans. Aujourd'hui, dans la ville de Boma, d'après Fifin Dimuneka, président urbain de l'UDEDO, les activités économiques sont dans leur quasi-totalité paralysées. Le port de Boma tourne actuellement au ralenti. Les navires qui apportait autrefois plus de 800 véhicules, n'en apporte plus que 100. Ceci a eu des répercussions négatives et sur les recettes provinciales que sur celles des privés. Et nous terminons par la Chambre des mines de la FEC qui a présenté hier vendredi à Kinshasa le guide sur la responsabilité sociétale des entreprises du secteur minier industriel de la RDC. À la fin de cette présentation, le président RSE de la Chambre des mines de la FEC, acceptez de se confier à votre radio. Suivez plutôt cet entretien qu'il a bien voulu nous accorder. Monsieur Santos, bonjour.
Bonjour.
Une petite présentation de vous-même?
Oui, je m'appelle Michel Santos. Je suis directeur de développement social à MMG à Kinsevere, dans le Katanga. Et ici, je viens représenter la commission RSE de la Chambre des mines dont je suis le président.
La commission RSE qui vient aujourd'hui de présenter le guide de la RSE en République démocratique du Congo dans le secteur de mines. Pourquoi, quelle a été la motivation de ces guides que vous avez élaborés?
Le guide de la RSE reste un guide qui vient nous donner un outil d'évaluation des meilleures pratiques dans la RSE. Ici, la RSE tourne autour de cette question centrale, à savoir la gouvernance, la loyauté des pratiques, les droits humains, les relations avec les employés, le développement communautaire et l'environnement. Et tout cela, nous y avons développé des indicateurs de performance. Et quand nous allons rapporter, cela va permettre davantage à tout utilisateur, à tout intervenant dans le secteur minier, de mieux comprendre exactement qu'est-ce qui est fait autour de la RSE dans le secteur minier.
Lorsque nous parlons de la RSE, cela veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pourquoi avoir seulement choisi le secteur minier? Parce que vous êtes minier?
Ici, nous nous sommes retrouvés très concernés en tant que secteur minier parce que cela a été un secteur où il y a eu des très grands investissements, mais très vite, nous avons toujours été interpellés par la société civile. Dès le début de la fin des années 90, au début des années 2000, et cela a commencé à interpeller le minier à davantage mieux expliquer son intervention et son investissement tout autour des sites miniers au travers justement la RSE et l'application des meilleures pratiques.
Le guide que vous présentez aujourd'hui énumère justement quelques lignes, quelques grandes lignes de bonnes pratiques. Nous pouvons savoir une, deux bonnes pratiques dans le secteur des mines?
Oui, aujourd'hui quand nous voyons le secteur des mines, on est d'abord autour de la redevabilité dans nos taxes que nous payons. Quand vous nous alignez à l'ITE, l'ITE nous donne toutes les taxes que nous devons payer à l'État. Aujourd'hui, quand nous allons par rapport aux droits humains, justement, ce guide RSE nous donne quelques indicateurs par rapport aux droits humains. Vous voulez délocaliser des communautés qui travaillent, qui sont autour de vos sites miniers, il y a des procédures à faire, il y a des consultations qu'il faut entreprendre avant de le faire. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de voir les relations avec l'entreprise, il y a justement aussi des relations avec l'employeur qui sont la reconnaissance d'un syndicat, les réunions syndicales, les discussions de la convention collective, il y a les formations des agents, tout ça entre dans les relations avec l'employeur. Quand nous allons dans l'environnement, justement, il y a aussi des pratiques environnementales admises et non admises. Quand vous allez dans les développements communautaires, tout ce qui est lié à l'investissement social, qui vous consulter, comment vous évaluez vos activités.
Tout est dans le guide.
Tout est dans le guide.
Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une bonne dissémination de ce guide va résoudre un certain nombre de petits problèmes qu'on constate, qu'on signale par-ci, par-là, entre les investisseurs miniers et les communautés locales.
Oui, en fait, au travers le guide reste un outil de rapportage et un outil de transparence. Au secteur minier, va davantage mettre à disposition des chiffres qui peuvent servir à toute autre personne, autre que du secteur minier, pour comprendre l'investissement minier.
Et bon, disons, ce guide que vous avez élaboré, il n'est pas un document obligatoire que les entreprises sont appelées à mettre en œuvre. Mais comment comptez-vous à faire adhérer un plus grand nombre d'entreprises à mettre en œuvre ce guide?
Autour de la Chambre des Mines, nous laissons tous les miniers qui veulent venir travailler avec nous. Nous n'imposons pas des membres, mais chacun vient vers la Chambre des Mines ou la FEC. Et tous les miniers qui sont à la Chambre des Mines se sentent obligés justement de rapporter ce qu'ils sont en train de faire. Et au travers de la RSE, nous donnons nos informations.
Monsieur Santos, merci de nous avoir répondu.
Merci bien.
Merci à vous, Monsieur Santos, et surtout, merci à vous, chers auditeurs de Radio Okapi. Merci de nous avoir suivis. Je vous convie de retrouver Panorama économique sur www.radiookapi.net. Je vous souhaite bonne fin de semaine et surtout, très bonne suite de programme sur Radio Okapi. Je suis Daniel Tambizoni, à la prise de son de Donnie Nyangasa. Nous vous disons au revoir et restez scotchés sur votre radio. Thank you.